France Culture.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Culture Monde, le magazine international de France Culture. Une émission préparée avec Anouk Millot, Loïc Antoine, Sacha Mattei, Quentin Péchard et Barthélémy Gaillard. Réalisée par Vivian Lecuivre et à la technique, c'est Nicolas Leroulet. Dans un monde où la biodiversité est en danger, certaines espèces d'animaux sont érigées au rang d'emblème. Cette semaine, on s'intéresse aux animaux totems et à ce qu'ils racontent de l'histoire des hommes. Nous avons évoqué le panda, devenu ambassadeur des intérêts diplomatiques chinois, puis le bison et la baleine, icônes de la faune sauvage à protéger, mais aussi symbole d'une identité nationale ou d'un engagement militant. Aujourd'hui, des animaux beaucoup plus familiers, chats et chiens, mascottes de la vie moderne.
Lui essaye le manteau.
Une fois j'ai essayé un nœud rouge, je trouvais que ça lui allait très bien.
Ça peut le contrarier aussi, une couleur qui ne lui va pas.
Je ne sais pas.
Le traumatiser même.
Vous prenez ça à la rigolade, hein, mais c'est la vérité pourtant.
Ah non, pas vraiment.
Vous savez pas ce que c'est qu'un chien, vous.
Je dépense à peu près 300 euros par mois pour mon chien. Dès qu'il a besoin de quelque chose, je lui offre. Pour lui, je n'ai pas de limite.
Le coût d'élever un enfant ici est tellement élevé, c'est tellement cher dans les grandes villes, et la pression est trop grande.
Ces animaux nous apportent autant de bonheur qu'un enfant.
C'est comme nos enfants, notre petite fille et notre petit garçon.
Dans un jugement rendu le 23 juin 2025 par la Cour suprême de New York, un chien a été pour la première fois reconnu comme un membre de la famille immédiate. Le teckel en question, prénommé Duke, avait été mortellement percuté par une voiture 2 ans plus tôt, et c'est un préjudice moral et non matériel au nom de la détresse provoquée par la perte de l'animal qui a été reconnue par la justice pour la propriétaire. Dans le droit, que ce soit aux États-Unis ou ailleurs, les chiens, les chats et autres animaux de compagnie sont le plus souvent considérés comme des biens. Au mieux, leur reconnaît-on un statut d'être sensible, mais rarement celui de membre de la famille. C'est peut-être un nouveau chapitre de l'histoire du compagnonnage entre humains et animaux qui est en train de s'écrire. Car si les chiens et les chats ont une place dans nos foyers depuis des siècles, de nouvelles attentes et de nouvelles représentations sont en train d'émerger. En Corée du Sud, où le marché des animaux domestiques est en pleine expansion, 58% des poussettes achetées en 2024 l'ont été pour des animaux. Une statistique peut-être anecdotique, nous allons en discuter, mais qui nous permet de poser la question de leur place nouvelle dans les cœurs et dans les budgets. Bonjour Florence Galmiche.
Bonjour Mélanie Chalandon.
Bienvenue, vous êtes maîtresse de conférence à l'Université Paris-Cité, membre du laboratoire Chine-Corée-Japon à l'EHESS et membre junior de l'Institut Universitaire de France. Vous signez dans le dernier numéro de la revue Terrain un article intitulé « Bovins et volailles au paradis d'Amitabha ». Prier pour les âmes animales dans le bouddhisme sud-coréen. On va en parler et c'est un numéro, je le signale, entièrement consacré à la place des animaux dans les nouvelles formes de ritualité. Et notre second invité est en duplex depuis Lyon. Bonjour Éric Baratet.
Bonjour.
Vous êtes professeur d'histoire contemporaine à l'université Lyon 3, spécialiste de l'histoire des animaux. Culture féline, les chats créent leur histoire, c'était paru aux éditions du Seuil en 2021. Alors il faut aujourd'hui, Éric Baratet, commencer par définir ce dont on parle. Un animal de compagnie, à quoi est-ce que cela correspond précisément et comment le distingue-t-on de l'animal domestique ?
Alors l'animal domestique, c'est beaucoup plus large, hein, puisque ce sont les animaux domestiqués, c'est-à-dire les animaux dont l'humain se sert d'une manière ou d'une autre. Donc il y a par exemple les bovins, les chevaux, etc. L'animal de compagnie, c'est celui qui n'a pas de fonction utilitaire, on pourrait dire matérielle, et qui sert de compagnie. Pour les humains. Alors en fait, on a pu avoir plein d'animaux de compagnie à l'échelle individuelle. Hein. L'aristocratie de l'Ancien Régime avait des perroquets, des petits singes, etc. Mais l'Occident s'est concentré au fil du temps sur les deux espèces emblématiques que sont les chats et les chiens, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres animaux de compagnie encore de nos jours, hein, notamment ce qu'on appelle les NAC, hein, les nouveaux animaux de compagnie. Ça peut être des rongeurs, des rats, des oiseaux, etc.
Est-ce qu'on sait dater à quelle époque en Occident ce terme de compagnie émerge ? Vous évoquiez une pratique aristocratique aussi. Est-ce que c'est avant tout un phénomène bourgeois ? Et je reviens aussi sur cette question de l'époque.
Oui, ça a été inventé par l'aristocratie d'Ancien Régime entre 15e et 18e siècle en Occident, en Europe de l'Ouest essentiellement. Hein. Et puis de là, ça s'est diffusé à la bourgeoisie urbaine, la bourgeoisie aisée urbaine entre 18e et 19e siècle. Et la troisième étape, c'est à partir des Trente Glorieuses, à partir des années 50, il y a eu une espèce de diffusion générale, de vulgarisation sociale de l'animal de compagnie qui s'est terminée, vulgarisation qui a abouti fin 20e siècle, au milieu paysan qui était le plus réfractaire et maintenant vous avez plein d'agriculteurs, d'éleveurs qui ont des chiens, surtout des chiens de compagnie, et les chiens se promènent avec eux dans les tracteurs. Et là, on a vraiment eu l'extension totale du phénomène. Ça a pris donc 3 siècles à peu près. Hein.
Florence Galmiche, est-ce qu'en Corée du Sud, on retrouve cette distinction entre animal domestique, qui a donc une acception plus large, comme vient de l'expliquer Eric Baratet, et l'animal de compagnie ?
Oui, il y a plusieurs catégories. Donc, il y a plutôt la catégorie en Corée d'animal d'élevage. Il y a aussi les animaux d'exposition ou de laboratoire et les animaux de compagnie. Et la catégorie même a évolué. Dans l'usage coréen, elle s'est surtout développée avec l'urbanisation dans les années 1960. Mais au début, on parlait plutôt d'animal d'agrément. Et en fait, le néologisme d'animal de compagnie est apparu dans les années 2000, au début plutôt par les défenseurs de la cause animale, mais il s'est imposé dans les années 2010. Et maintenant, c'est animal de compagnie qui domine pour les animaux qu'on a à la maison.
Ce néologisme dont vous parlez, c'est le... Alors, je ne sais pas si je le prononce bien, c'est le pet famjok.
Alors, c'est le paliodong moule, mais il y a un autre néologisme qui est arrivé, c'est pet femjok, avec le pet de l'anglais, petit animal, fem de family, et le jok, le caractère chinois de la famille, pour parler des familles avec des animaux de compagnie. Donc, des familles qui intègrent un animal comme un membre.
Alors c'est intéressant parce que de voir, alors je crois que la langue coréenne est assez familière du néologisme pour qualifier des phénomènes, des pratiques nouvelles. Est-ce que l'apparition de ce terme, le pet famjok, qui associe l'animal de compagnie à la famille, est la preuve, une marque, une révélation de cette évolution de la place de l'animal de compagnie qui n'est plus peut-être seulement un agrément mais un membre de la famille à part entière ?
Ce terme est vraiment symbolique de ce mouvement et il s'accompagne par d'autres néologismes où on parle aussi de familialisation de la place des animaux, donc c'est vraiment explicite. Et par exemple, il y a eu un sondage qui avait été fait en 2023 qui montrait que 80%, un peu plus de 80% des propriétaires d'animaux considéraient l'animal comme un membre de la famille. Mais ce qui était à mes yeux plus intéressant encore, c'est que près de 60% des non-propriétaires d'animaux partageaient cette opinion.
Ce qu'il faut savoir, et je crois que tous les amis des bêtes le savent, c'est que, parlant des chiens ou parlant des chats, c'est un peu comme les êtres humains. Aucun n'est semblable à un autre. Et il y a des rapports entre l'être humain et l'animal qui sont des rapports très profonds. Et vivre toute une vie sans avoir un chien, ou sans avoir un chat, quand naturellement les conditions matérielles le permettent, ce n'est pas une vie tout à fait complète.
C'est l'ancien Premier ministre français Michel Debré qui se confiait dans cette archivina de 1976 sur son rapport aux chiens et aux chats dans l'émission 30 millions d'amis. Éric Baratet, on voit à travers cette archive que l'affection, la considération qui est portée aux chats et aux chiens, elle n'est pas nouvelle. Alors qu'est-ce qui a changé depuis les années 70 dans notre rapport aux animaux domestiques, aux animaux de compagnie ?
L'intensité du rapport, dans le sens où jusqu'aux années 50-60, le chien, le chat est en retrait à l'époque, hein. Mais le chien est considéré comme un ami de la famille. C'est là-dessus qu'on insiste beaucoup, par exemple, au 19e siècle, la SPA, puis les autres associations de protection animale insistent là-dessus, sur l'ami de la famille, le compagnon obéissant, fidèle. La fidélité est un point très important côté chien. Et ce qui change, c'est à partir des années 60-70, et on le voit bien ici dans ce témoignage, hein, c'est que l'animal devient l'enfant de la famille. On le voit très bien, par exemple, dans des bandes dessinées comme Boule et Bill, hein, qui datent de cette époque-là, où on a tout à fait le chien à qui on fête son anniversaire, à qui on offre des cadeaux, est tout à fait dans ce statut-là. Alors évidemment, au départ, c'est une minorité, et l'intensité s'est développée, et maintenant, c'est à peu près tout le monde, comme on l'a dit pour la Corée, hein, ces pays-là ont rattrapé finalement le monde occidental, c'est tout le monde, ou une grande partie des gens qui considèrent ça. Et puis il y a une autre montée en intensité, ce sont les rapports. Il ne faut pas croire, contrairement à ce que dit Michel Debré, mais évidemment, il parle de son expérience, mais il ne faut pas croire que les rapports sont naturels, hein, c'est-à-dire qu'on comprend naturellement un chien à un chat et qu'un chat nous comprend naturellement aussi. Hein. Il y a construction de ces rapports, il y a un rapprochement. Et c'est ce rapprochement qui a monté en intensité et qui fait que maintenant, ça paraît normal de jouer avec son chien, son chat, de lui parler, ce qui était beaucoup plus rare il y a un siècle, par exemple. Hein. Thomas Mann écrit un livre en 1918 sur son expérience avec son chien. Il ne joue pas avec lui, il ne lui parle pas, hein. Ils se promènent ensemble. Voilà, la relation va pas plus loin que ça. Donc c'est cette montée en intensité qui fait vraiment la différence d'une époque, notre époque, et puis il y a 60-70 ans.
Quand le chien est perçu comme un ami, puis perçu comme un enfant, qu'est-ce que ça change, Éric Baratet, sur les attentes que l'on peut avoir envers son animal de compagnie ?
Alors, on attend beaucoup plus d'interactions. Hein, ça, c'est vraiment le point commun, d'abord pour les chiens et maintenant pour les chats, puisque c'est développé depuis une vingtaine d'années ce que j'appelle le chat-chien, c'est-à-dire le chat qu'on incite à se conduire comme un chien. Hein, c'est-à-dire une forte interaction, c'est-à-dire un animal qui vit avec vous, qui vous interroge, qui veut jouer, qui vous sollicite. C'est vraiment un partenaire, et je dirais, plus qu'un animal de compagnie, il faut nommer maintenant ces chats et ces chiens de véritables compagnons. Animal de compagnie, ça peut être ce qu'on avait jusqu'aux années 70-80 du côté des chats, c'est-à-dire un animal qui est présent. Hein, il traverse la salle, il vous regarde pas, mais ça fait rien. L'important, c'est qu'il soit là. Le compagnon chat-chien actuel, ça n'est plus ça. Hein. Il faut qu'il sollicite, et il faut qu'il interagisse. Il faut qu'il montre qu'il est dépendant de vous, qu'il vous aime, qu'il a des émotions par rapport à vous. Et inversement, la montée des émotions est très forte aussi du côté des humains. D'où, par exemple, le jugement que vous avez évoqué, hein, sur ce préjudice moral. Finalement, la justice, là, en américaine, en prenant cette décision, elle ne crée pas le phénomène, elle l'avalise, hein, parce qu'en réalité, elle reconnaît qu'il y a vraiment une situation affective extrêmement forte entre ses compagnons et leur propriétaire ou leur maître. Bon, là aussi, il faudrait s'interroger sur le nom maintenant à adopter.
Florence Galmiche, ce concept du chat-chien que vient de décrire Éric Baratet et qui s'accompagne donc d'attentes nouvelles, de sentiments aussi nouveaux entre les propriétaires et leurs compagnons, est-ce qu'on observe quelque chose de similaire en Corée du Sud ?
Oui, il y a des expressions qui évoquent explicitement cette notion, comme des expressions comme même compagnon d'affection, compagnon affectif. Et le chat, alors le chat avait très mauvaise presse en Corée. Il était, voilà, il pouvait être là dans les fermes pour chasser les souris, mais il était craint. On le même soupçonnait de proximité avec les fantômes. C'était voilà un animal qui était tenu à distance affectivement. Et maintenant, c'est l'animal qui gagne le plus en popularité. Alors les chiens restent plus présents, mais le chat rattrape, notamment parmi les personnes qui sont dans la vingtaine. Parmi les plus jeunes et les personnes célibataires qui adoptent de plus en plus de chats.
C'est intéressant de voir cette évolution parce qu'elle résonne avec une évolution historique aussi en France ou en Occident. Éric Baratet, pendant longtemps, le chat a été associé à, alors je crois au diable, il y a la figure du chat noir évidemment, et puis à un caractère évidemment indépendant, à l'anarchisme aussi.
Oui, tout à fait. Et en fait, on a connu en Occident d'une manière beaucoup plus lente, beaucoup plus longue, hein, mais ce qu'il est en train de se faire là en Corée, c'est tout à fait étonnant. C'est la même chose au Japon, c'est la même chose dans les villes chinoises, dans la bourgeoisie urbaine. Et là, oui, le chat, effectivement. Et le chat est l'animal de compagnie ou le compagnon qui a connu les vicissitudes les plus fortes, hein, puisqu'il était vénéré et chiens et chats de compagnie dans l'Égypte antique. Et puis les Romains l'ont un peu moins apprécié lorsqu'il a été introduit parce que le chat a le malheur de manger les oiseaux. Or, à l'époque romaine, l'oiseau était l'animal de compagnie par définition. Hein. Et puis ensuite, à l'époque chrétienne, effectivement, il a été diabolisé. On en a fait l'emblème, voire l'image même de Satan. Hein. On était persuadé que les chats et les sorcières, ou plutôt que les sorcières avec les chats allaient adorer Satan et que Satan se montrait très souvent sous la forme d'un chat noir, évidemment, hein. D'où les superstitions de malheur, d'où le fait qu'à la Saint-Jean, on brûlait des chats jusqu'au 17e, 18e siècle, pour montrer à Satan qu'on ne se laisserait pas faire, qu'on le vaincrait. Et la revalorisation s'est faite très, très, très lentement, sur 3 siècles, 4 siècles. Et effectivement, les romantiques ont joué un rôle important dans le sens où ils ont valorisé ces chats noirs, dépréciés, peu aimés, que l'on mettait de côté, à qui on ne parlait absolument pas. Hein. On les tolérait pour chasser les rongeurs, mais il n'était pas question d'avoir des relations avec eux. Et les romantiques en ont fait une image d'eux-mêmes, hein, c'est-à-dire marginaux, hors de la société, ingrats, indépendants, etc., etc. Et c'est cette image du chat qui a beaucoup plu jusqu'aux années 70-80. C'est ce qui a fait le succès du chat, mais en arrière-plan par rapport au chien. Et de nos jours, les maîtres, depuis 20-30 ans, les maîtres de chats, maintenant, n'ont plus ces exigences-là. La plupart ont plutôt les exigences qu'on avait pour les chiens. C'est-à-dire un véritable compagnon interactif et non pas un animal présent, mais dont on ne s'occupe pas beaucoup.
Ce compagnonnage, il se joue jusque dans la mort. Florence Galmiche, dans un article paru dans le dernier numéro de la revue Terrain, qui est consacré à la place des animaux dans les nouvelles pratiques rituelles, vous avez étudié le développement, c'est un phénomène nouveau, des funérailles pour animaux en Corée du Sud. De quoi s'agit-il exactement ?
Alors, il y a deux dimensions. L'article se concentre plutôt sur les funérailles pour les animaux d'élevage. Parce que, comme il y a eu des abattages massifs dans les années 2010 pour limiter la fièvre aphteuse, et ces abattages ont vraiment choqué dans la société, ils ont aussi choqué les éleveurs de par leur ampleur, la brutalité, et puis parfois le caractère expéditif de la procédure. Et donc, ils ont suscité en retour, en réaction, des adaptations rituelles de cérémonies qui étaient destinées à des humains victimes de malmorts et qui ont été transposées pour ces animaux, pour à la fois leur souhaiter un avenir post-mortem positif et de manière explicite pour apaiser le cœur, je reprends l'expression, des agriculteurs.
Donc, la malmort, c'est ?
Alors, c'est une mort dans des conditions néfastes, donc prématurées, violentes, voilà.
Donc des rituels qui commencent à se développer pour les volailles, pour le bétail qui ont été victimes de ces abattages massifs dans le contexte des épidémies, mais aussi des rituels qui sont désormais réservés à des animaux de compagnie sur, si je vous ai bien lu, sur le même modèle que ceux qui existent pour les êtres humains. Est-ce que c'est, il faut y voir une manière, est-ce que les animaux ont été élevés au rang d'humains? Est-ce qu'il faut, on peut le dire comme ça dans la religion bouddhiste?
C'est un sujet en tension, c'est-à-dire que oui, là, donc il y avait ces rituels pour les animaux d'élevage, il y a les rituels pour les animaux de compagnie qui se développent beaucoup aussi. J'ai cherché des critiques de ces rituels dans les milieux bouddhistes, je n'en ai pas trouvé d'explicite. Et c'est vrai que il y a à la fois l'utilisation du rituel, mais ça emmène des changements importants dans la manière de considérer les animaux, puisqu'en fait, dans le bouddhisme coréen, il y a la tradition méditative qui est forte, mais il y a aussi la tradition qu'on appelle de la terre pure. Les deux sont assez mêlés, et où une des finalités pour les humains, c'est, à défaut d'atteindre l'éveil dans cette vie, de se réincarner dans le paradis temporaire du Bouddha Amita, où là, ils peuvent avoir de bonnes conditions pour atteindre l'éveil. Donc, c'est pas tout à fait un paradis, mais une sorte d'étape intermédiaire pour l'éveil. Et il y avait une ambiguïté si les animaux pouvaient y entrer directement ou pas. Au XIIe siècle, un moine très influent de la tradition coréenne a déterminé que les animaux devaient passer par une vie humaine pour entrer dans ce paradis. Mais quand on observe les rituels contemporains, on voit que les moines commencent par affirmer qu'on prie pour que les animaux ne renaissent pas dans un corps animal, mais prennent un corps humain, ce qui est une progression karmique, mais aussi vont jusqu'à proposer qu'on prie pour que les animaux renaissent directement dans le paradis d'Amita, et donc court-circuite la vie humaine, ce qui les rapproche des humains, ou en tout cas les met dans une possibilité religieuse proche des humains. Bon, voilà, on est sur des rituels, des innovations qui sont très récentes. Pour le moment, je n'ai pas vu une stabilisation doctrinale de cette idée, mais elle ne, à ma connaissance, elle ne soulève pas de réaction négative.
Choupette, clochette, espoir, coco. Il était étrange d'entendre des petits noms d'animaux prononcés lors d'une cérémonie aussi solennelle, mais les participants avaient tous une expression sérieuse. La cérémonie d'adieu dura 2h30 jusqu'à ce que le front des moines soit perlé de sueur et que les participants qui étaient debout s'assoient épuisés. C'est un extrait d'un article de presse que vous mentionnez dans votre article, Florence Galmiche, de la presse coréenne, qui rapporte ce phénomène nouveau et vous le disiez, je crois que vous avez été étonné de voir finalement un traitement assez bienveillant vis-à-vis de ces nouvelles pratiques.
Oui, étonné je l'étais un petit peu parce que par exemple quand je parlais avec des collègues coréens de ce sujet de recherche, beaucoup trouvaient que c'était intéressant mais soulignaient qu'il y avait le débat en Corée sur le fait que les animaux prenaient une place peut-être trop grande et peut-être contribuer à la dénatalité ou des choses comme ça. Donc une sorte de regard positif, mais un petit peu méfiant. Et donc, voilà, je me demandais quel était le regard là-dessus, mais c'est vrai que sur les articles de presse, on voit vraiment une évolution où souvent les articles de presse commencent en disant que c'est un peu étrange, il y a des expressions même comme bizarre, étrange, insolite, mais ces qualificatifs disparaissent de plus en plus pour aller vraiment plus sur la sincérité du rituel, la sincérité des émotions et la dimension morale des propriétaires qui se préoccupent de l'avenir de ces âmes.
Éric Baratet, dans ce phénomène dont on parle, qui est celui de la place grandissante des animaux domestiques, non seulement dans les foyers, mais presque dans les familles, est-ce que vous observez aussi des débats, des crispations, des jugements négatifs qui sont aussi émis, enfin la façon dont ça bouscule toute la société en dehors des propriétaires d'animaux de compagnie?
Non, plus maintenant. Ça a été le cas jusqu'aux années 80, mais le phénomène est tellement massif maintenant en Occident. Les opposants ou les critiques sont devenus très rares, parce qu'il y a vraiment là une lame de fond qu'on ne peut pas assimiler simplement à une mode. Hein. Si on prend le cas des enterrements ou des rites funéraires, eh bien, là aussi, c'est l'aristocratie d'Ancien Régime ou la grande bourgeoisie qui a inventé ça. Il faut Ronsard, par exemple, enterre son chat Belot. Hein, on est au XVIe siècle. Dubelet. Et puis au XVIIIe siècle, on a plein de cas comme ça dans l'aristocratie, et ça aboutit fin XIXe siècle à l'invention ou à la création plutôt du cimetière pour chiens à Asnières, hein, pour la bourgeoisie urbaine parisienne qui n'avait pas de terre, qui ne pouvait pas enterrer ses chiens dans les terrains des maisons secondaires. Eh bien, on les emmenait à Asnières, et il y a eu toute une succession de cimetières pour animaux de compagnie qui ont été ouverts dans les banlieues des grandes villes dans les années 70.
Nous commençons par une courte consultation avant le test de caractère. Cela nous permet de comprendre dans quel type d'environnement le chien a vécu et à quel point l'ambiance à la maison est généralement tendue ou non. C'est ce que nous appelons souvent un test de niveau. En Corée, les gens sortent souvent pour aller travailler ou étudier, laissant la maison vide. De nombreuses personnes viennent pour éviter les problèmes qui surgissent lorsque les chiens restent seuls trop longtemps à la maison. Ils estiment que leurs chiens ont besoin d'éducation, mais pas au point de suivre un dressage complet. En Corée, les animaux de compagnie sont considérés comme des membres de la famille, comme des enfants.
Témoignage de la directrice de Dog's Planet, c'est un reportage de Channel News Asia diffusé cette année, Florence Galmiche. On voit souvent un lien établi dans la presse ou dans les discours publics entre la baisse de natalité en Asie, en particulier en Corée du Sud où elle est extrêmement basse, et l'augmentation de l'adoption de chats et de chiens dans les foyers. Qu'en est-il réellement? Est-ce qu'il y a un lien de cause à effet, ou est-ce que l'adoption de chats et chiens est le révélateur d'un phénomène qui a d'autres causes?
Oui, on est plutôt sur la deuxième option. La polémique naît régulièrement dans la presse et retombe généralement tout aussi vite. Les journalistes ou les sociologues qui se sont penchés sur cette question soulignent, alors c'est vrai que le taux de fécondité il est environ à 0,7% en Corée du Sud, donc c'est un des plus bas ou le plus bas de l'OCDE, mais les causes sont plutôt à chercher du côté du prix exorbitant du logement, des contraintes professionnelles, du prix aussi de l'éducation quand on a des enfants, et aussi des difficultés structurelles pour les femmes si elles souhaitent combiner une carrière professionnelle et la maternité. Donc voilà, c'est plutôt sur ces causes-là qu'il faut chercher la baisse de la fécondité. Mais c'est vrai que le rapprochement est souvent fait dans la presse coréenne. Voilà, pour généralement être défait assez rapidement.
Il y a une autre évolution notable en Corée du Sud, c'est l'interdiction en 2024 de la consommation de viande de chien dans les restaurants. Alors, ce sera effectif en 2027, le temps que les éleveurs s'adaptent, mais on a déjà vu des fermes canines fermées. Pour quelle raison le gouvernement coréen a-t-il décidé d'interdire cette consommation?
Alors, c'est vraiment une question qui est un serpent de mer depuis plusieurs décennies. Sur l'époque récente, au moment des Jeux Olympiques de Séoul en 88, il y avait déjà eu une volonté de cacher, alors pas d'interdire du tout, mais de cacher la consommation de viande de chien pour éviter de choquer les médias occidentaux et donc de donner une mauvaise image de la Corée. Donc les devantures de certains restaurants ont dû être changées, il y avait interdiction d'avoir des chiens visibles dans les marchés, des choses comme ça. Et à ce moment-là, ça avait suscité des réactions négatives d'une partie de l'opinion et de la presse, en accusant ces démarches de mépriser un aspect de la culture coréenne, de vouloir l'occidentaliser, avec aussi des références au mépris effectué par le Japon pendant la période coloniale. Donc on voyait que c'était un sujet très très sensible. Donc à partir de là, la question est revenue périodiquement et retombée, voilà. Mais on voit qu'à l'époque actuelle, le changement du statut des animaux, voilà, comme c'était dit tout à l'heure, n'est pas du tout une mode, c'est vraiment une lame de fond. Et on voit que là, la réforme a été acceptée et n'était plus, quoi, le statut des chiens a tellement changé que ce n'était plus tenable.
다른 고기에 비해서 특별하지 않는데
La viande de chien n'est pas si différente de n'importe quelle autre viande. Mais les restaurants la rendent spéciale. Ils mettent différentes épices, des plantes et des graines de sésame pour couvrir l'odeur.
J'élève mes enfants et mon chien ensemble. Nous sommes une famille. J'élève mon chien comme mon troisième enfant. Ça n'a pas de sens de consommer de la viande de chien. Et je suis très heureuse que la loi d'interdiction ait été votée. J'aimerais que l'on ne consomme plus jamais de la viande de chien.
Illustration de l'évolution de la tension aussi que vous expliquiez, Florence Galmiche, sur le cas de la consommation de viande de chien en Corée du Sud. Éric Baratet, comment ce débat sud-coréen résonne avec des réflexions globales sur la sensibilité animale, un rapport différent et derrière des évolutions juridiques?
Oui, en fait, c'est un processus que l'on voit là en Corée qui se répand un peu de partout. La Chine, je crois, a fait la même chose. Et en Occident, nous avons fait cela il y a très très longtemps, hein, puisque les inventeurs, si on peut dire, du chien de compagnie, ce sont les Romains, hein, de l'Antiquité. Et les Romains avaient interdit, hein, avaient abandonné la consommation du chien. Alors ensuite, avec la fin de l'Empire romain, la germanisation, on aurait pu revenir à de la consommation du chien, mais elle est restée interdite parce que dans le christianisme, au début, le chien était considéré comme un animal impur. Donc c'est une interdiction qui s'est profondément ancrée chez nous. Et il y a eu quelques débats au XIXe siècle parce qu'il pouvait y avoir de la consommation cachée. Mais c'est resté une interdiction tout à fait ancrée. Le débat était un peu plus fort pour les chats, parce que les chats pouvaient servir un peu à remplacer le lapin, etc. Mais évidemment, le fait que les chats soient devenus les premiers compagnons actuellement, hein, ils ont largement dépassé les chiens, évidemment, la question ne se pose plus. Donc c'est un processus que l'on retrouve à l'échelle mondiale, et qui a bien été expliqué dans l'entretien que vous avez diffusé là, hein. On ne peut évidemment pas manger un animal que l'on considère comme un membre de la famille. Et je voulais revenir aussi sur cette affaire de natalité, hein. C'est évidemment, comme ça a été dit, ce n'est pas lié, hein. Le meilleur exemple, c'est que dans les années 50-80, les statistiques en Europe montraient que on avait plus de chances d'avoir un chien ou un chat lorsqu'on avait des enfants. Hein, et plus la famille était grande, plus la chance ou le risque, je ne sais pas, comme on veut, était forte. Hein, donc ça n'est absolument pas lié à la natalité, même si maintenant, effectivement, on trouve en Occident des gens qui avancent l'idée que pour des raisons X ou Y, il vaut mieux un chien ou un chat qu'un enfant.
Et la place des chats et des chiens dans les cœurs et dans les foyers, elle se perçoit aussi à travers les services nombreux, innovants, qui sont proposés aux animaux.
Est-ce que vous voulez quelque chose pour vos chiens, les filles ? Cappuccino.
Glace.
Alors là, je fais un cappuccino. Donc c'est de la crème de lentilles montée en chantilly. Donc c'est sans lactose, c'est une crème végane. Comme ça, il n'y a pas de problème de digestion pour les chiens. Par-dessus, je rajoute des petites friandises, canard-carottes. Donc voilà, ils en raffolent.
Cet endroit, il est incroyable parce qu'il est dog-friendly. Donc du coup, il peut prendre tous les chiens sociables ou même ceux qui sont un petit peu moins sociables, mais quand il y a moins de monde. Et ça nous permet de passer un beau moment avec notre chien en buvant un coup, en mangeant quelque chose. On peut aussi acheter des accessoires.
Extrait d'un reportage de France 3 réalisé à Metz dans un concept store pour chiens, Florence Galmiche. Ces nouveaux égards accordés aux chats et aux chiens, c'est aussi un marché commercial et je crois que c'est aussi un phénomène qui est en pleine expansion en Corée du Sud.
Oui, le marché des animaux de compagnie se développe beaucoup en Corée. Alors, par la taille, il est un petit peu inférieur à celui de la France, donc il n'est pas non plus si immense que ça, mais c'est plutôt sa croissance, son taux de croissance qui est tout à fait frappant. Et parmi les services, il y a beaucoup de services de loisirs qui s'adressent à la fois aux animaux et à leurs propriétaires, maîtres, voilà, selon comment on peut les appeler, les termes ne vont plus très bien. Avec par exemple des centres de vacances qui accueillent les chiens, mais qui ont aussi des activités pour les chiens, comme des espaces de socialisation canine, des piscines pour les chiens, des restaurants, des cours, voilà, des activités spécifiques pour eux, mais aussi qui permettent aux humains de socialiser autour de leur animal.
Dans un contexte de solitude urbaine qu'on a un petit peu évoqué et qui est assez caractéristique en Corée du Sud, c'est important de préciser que ce sont aussi des espaces de socialisation pour les humains.
Tout à fait, comme le sont aussi pas mal d'associations de protection des animaux. Il y a un phénomène qui se développe beaucoup chez les personnes qui sont dans la vingtaine et qui peuvent être susceptibles de vivre de la solitude dans la vie urbaine. Et beaucoup d'associations sont organisées pour prendre soin des chats errants, qui sont très nombreux dans les espaces urbains, et où là aussi sont des... Voilà, c'est un phénomène social aussi très important pour les personnes dans la vingtaine.
L'autre phénomène social dont on n'a pas encore parlé, c'est celui de la médiatisation des chiens et surtout des chats sur Internet, sur les réseaux sociaux. Ils sont devenus de véritables mascottes depuis les années 2000, les phénomènes de lolcats sur Internet, les chats mignons. Éric Baratet, je m'adresse à l'historien, la médiatisation, la représentation des chats, il faut la relativiser, elle n'est pas totalement nouvelle dans l'histoire.
Oui, c'est déjà ancien. Hein. On a déjà des... par exemple, au XIXe siècle, on a quantité de tableaux représentant des chats de compagnie, hein, dans des familles bourgeoises. Avant la photographie, on avait des peintres spécialisés dans les portraits de chiens, de chats, etc., pour leur maître. Hein. Et puis ensuite, au XXe siècle, vous avez toute la bande dessinée, tous les dessins animés qui vont populariser des figures de chiens surtout, mais aussi de chats. Hein. Il suffit de penser dans les années 60 à Pif et Hercule, par exemple. Hein. Et Hercule, ce chat tout noir avec toujours un sparadrap sur la joue parce qu'il se bagarre avec tout le monde. Donc ces figures d'animaux de compagnie ont été popularisées depuis très longtemps. Pensons à Milou, par exemple, hein, où je parlais de Boule et Bill tout à l'heure. Et ça a fait beaucoup. Ça fait beaucoup pour populariser et diffuser l'animal de compagnie, puis le compagnon auprès de la population. Et maintenant, il est vrai que dans la bande dessinée, maintenant, ce sont plutôt des chats, hein, qui sont en avant. Hein. Il y a plus de chats que de chiens, et ça illustre évidemment le renversement numérique, puisque maintenant on a à peu près 14-15 millions de chats, pour 7 millions de chiens en France.
On a des comptes Instagram aujourd'hui qui sont directement au nom des chats ou des chiens eux-mêmes avec des millions d'abonnés. Donc l'animal de compagnie, on parlait tout à l'heure des attentes, l'image qu'il peut renvoyer de drôlerie, de mignonnerie, ça fait partie de ces attentes-là. On lui demande aussi d'être une star numérique. Florence Galmiche.
Ça fait partie des attentes et ça fait partie des points de controverse aussi en Corée. C'est-à-dire que il y a toute cette mode, voilà, de l'animal mignon, rigolo, voilà, qui divertit. Ça contribue à changer le regard sur les animaux et donc ça a contribué à faire évoluer leur statut juridique, etc. Mais c'est aussi un point qui est critiqué par les associations de défense des animaux. Donc les regards sont très contrastés et ces associations vont critiquer la médiatisation mignonne en fait des animaux en disant que ce n'est pas répondre à leurs besoins et ou même certains services pour animaux à qui il est reproché de ne pas regarder la réalité des besoins des chiens mais plutôt de chercher des scènes qui puissent être instagrammables, etc.
Ce qui ne garantit pas donc une meilleure prise en compte du bien-être animal, cette médiatisation. Vous écoutez Culture Monde, dernier épisode de notre série sur les animaux totems. On parle aujourd'hui des chats et des chiens, mascottes de la vie moderne, mais aussi dans un instant des oiseaux comme le chardonneret. Yeah. Freddie Mercury que vous venez d'entendre miauler dans ce titre. Delilah, Delilah, tu es irrésistible, tu me fais sourire quand je suis sur le point de pleurer, tu m'apportes de l'espoir, tu me fais rire et j'aime ça. Une chanson dédiée au chat de Freddie Mercury, Delilah, écrite et composée en 1991. On parle ce matin des animaux de compagnie et tout de suite le chardonneret, une passion algérienne.
France Culture, Culture Monde, Mélanie Chalandon.
Vous remarquez les week-ends, tous les Algérois, quand il fait beau, qu'ils sortent leurs chardonnerets, qu'ils les mettent dans des bassines pour la douche, et puis ils commencent à faire des petites battles comme ça entre voisins, le mien il chante. Mais sinon, c'est le côté gracieux du chardonneret qui attire les gens. Donc, le stéréotype de l'Algérois, c'est le mec avec un bleu de travail, une marinière et une cage de chardonneret.
En Algérie, on l'appelle le maknin. C'est un petit oiseau aux couleurs vives et aux chants mélodieux. En 1957, le poète, chanteur et résistant Mohamed El Badji évoquait l'image de l'oiseau prisonnier alors que lui-même venait d'être condamné à mort. Le chardonneret est synonyme d'espoir et de liberté. Il est aussi un compagnon du quotidien, comme l'expliquait à l'instant ce vétérinaire algérois. Témoignage extrait du documentaire « L'élégance du chardonneret » de Seham Boutata, diffusé sur France Culture, une passion nationale en Algérie qui inquiète aussi les défenseurs de l'espèce. Bonjour Sadek Atoussi.
Bonjour.
Bienvenue, merci beaucoup d'intervenir dans l'émission. Vous êtes professeur d'écologie à l'université du 8 mai 1945 à Guelma. Vous êtes chercheur associé à l'Oxford Wildlife Research Group. Il y aurait, je crois, Sadek Atoussi, 6 millions de chardonnerets en cage en Algérie. Pourquoi est-il si populaire et si apprécié par rapport à d'autres animaux de compagnie et même par rapport à d'autres oiseaux ?
C'est là toute la question, en fait, comme le soulignait votre invité tout à l'heure. En fait, c'est une pratique qui est très courante dans la région méditerranée depuis la Rome antique, et plusieurs mosaïques en testent de ça, donc ça prouve l'enracinement de cette activité dans notre région. Donc il a une valeur culturelle très importante, il est apprécié pour son chant, mais aussi pour son élégance, comme ça a été signalé dans le documentaire que vous venez de diffuser. Donc les Algériens et beaucoup d'autres on va dire populations de la région méditerranée sont très attachés à cet oiseau, notamment au Liban, en Jordanie, où nous avons quelques études sur ça, mais il me semble que l'Algérie reste vraiment un point focal où l'espèce est vraiment appréciée et jusqu'à nos jours, cette tradition persiste.
Sa beauté, celle de son plumage, celle de son chant avant tout, est louée de longue date en Algérie. Est-ce que ça veut dire que, contrairement aux chats et aux chiens, il n'a absolument pas de rôle utilitaire? Il n'est pas là pour chasser des rongeurs ou pour garder la maison?
Voilà, exactement. Donc, il n'a pas du tout de rôle utilitaire, en fait. Il y a des travaux, en fait, qui ont été faits sur la relation que nous avons avec, ou que nous entretenons avec les animaux. Et il est clair, en fait, que dans cette typologie, l'appréciation du chardonneret fait partie d'une appréciation purement esthétique.
J'évoquais tout à l'heure ce poème El Maknin Ezin, qui a été ensuite adaptée en chant. Et est-ce que vous pouvez nous dire ce que représente cette chanson ? Est-ce que c'est un thème très populaire ? Et qu'est-ce qu'elle dit du Chardonneret ?
Ben voilà, la relation a été faite clairement entre la situation de l'auteur de cette chanson, comme vous l'avez dit, Mohamed El Bajji, qui est un chanteur chaabi très connu, très réputé en Algérie, et ça correspondait avec son emprisonnement. Donc l'analogie a été vraiment rapidement faite entre le statut du Chardonneret qui est pris en cage, mais qui est quand même apprécié, et sa propre situation à l'époque où il était détenu. Et même jusqu'à présent, en fait, nous pouvons voir certaines vidéos qui circulent parfois sur les réseaux sociaux de chanteurs algériens, précisément des chanteurs beaucoup plus de musique arabo-andalouse ou de la musique chaabi, qui montrent leurs photos ou des vidéos, les montrant dans leur voiture, fredonnant quelques chansons, et le Chardonneret qui se balade librement dans la voiture. Donc, oui.
Mohamed El Bajji, le poète, avait été condamné à mort en 1957, mais il sera finalement libéré. Il est décédé en 2003. Est-ce que le Chardonneret reste associé, comme lui l'a fait, à la liberté, à l'espoir aussi, puisqu'on était à l'époque avant l'indépendance? Est-ce que ces symboles-là sont encore associés à l'oiseau?
Oui, tout à fait. Donc, même dans toutes les nouvelles chansons, en fait, l'utilisation de l'image du Chardonneret est généralement associée à des événements tristes ou à des événements un petit peu mélancoliques. Donc, l'image, elle est toujours d'actualité.
Le Chardonneret aujourd'hui, c'est un compagnon précieux au quotidien. Beaucoup de foyers possèdent un petit Chardonneret en cage. En 2012, l'Algérie a placé le Chardonneret sur sa liste d'espèces menacées. On parle d'une quasi-disparition dans les milieux naturels. Quelles en sont les causes ?
Principalement, la cause majeure, en fait, c'est le braconnage et la surexploitation de l'espèce. Vu qu'à un moment donné, les chasseurs ont commencé à utiliser des méthodes très invasives pour chasser les chardonnerets, c'est en utilisant des filets, une chasse nocturne, donc ce qui provoque des pertes énormes, en fait, suite à beaucoup d'individus morts, beaucoup d'individus blessés. Il y a certaines estimations qui disent que pour un individu vendu ou un spécimen vendu sur le marché, entre 3 et 10 décèdent.
C'est un braconnage très meurtrier. Et du fait de sa disparition dans les milieux naturels en Algérie, on voit se développer un trafic d'importation de chardonnerets pour ceux qui veulent s'en procurer. D'où viennent ces chardonnerets importés par les trafiquants ?
Principalement, ils viennent du Maroc. Principalement. Parce que l'espèce, elle est partiellement migratrice. Donc il y a des échanges de population entre l'Espagne et le Maroc, vu la proximité et la route migratoire. Donc la population marocaine, on peut dire qu'elle est régulièrement alimentée. Donc il existe plus de chardonnerets au Maroc qu'en Algérie. Et vu que les prix peuvent atteindre des sommes considérables, donc un trafic s'est mis en route, et on observe qu'il existe beaucoup d'échanges, on va dire, entre le Maroc et l'Algérie pour la contrebande de cet animal.
J'allais justement vous demander de nous donner une idée chiffrée de à combien se vendent les chardonnerets je crois que ça se passe vraiment dans la rue. Il y a des marchés illégaux aux chardonnerets sur des places publiques, dans les rues. Ça représente quoi aujourd'hui par rapport à un salaire algérien, l'achat d'un chardonneret?
Là, cela va dépendre entre le spécimen convoité, en fait. Si on parle de spécimens qui sont fraîchement capturés, donc qui n'ont pas été entraînés au champ, qui n'ont pas passé une période d'adaptation importante en cage. Donc là, les prix peuvent varier entre, disons, 20 et 50 euros par spécimen. Mais quand on parle d'individus vraiment exceptionnels ou avec quelques traits atypiques, là, les prix peuvent grimper à plusieurs centaines d'euros.
Et les mesures qui ont... On le disait tout à l'heure, en 2012, l'Algérie a inscrit le chardonneret sur une liste d'animaux menacés. Est-ce qu'il y a des mesures qui ont été prises? Est-ce qu'elles ont eu des effets pour enrayer cette disparition, cette menace de disparition de l'espèce?
Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Depuis 2012, en fait, comme vous l'avez signalé, l'oiseau est inscrit sur la liste des espèces protégées. Et ces dernières années, on va dire, à partir des années 2022-2023, on remarque qu'il y a de plus en plus de contrôles dans ces marchés. Donc, plusieurs opérations de saisie sont effectuées, où on essaye vraiment il y a des efforts qui sont faits pour limiter justement ces activités. يا المقنين الزين يا صفر الجنحين يا حمر الخدين يا كحيل العينين هدي مدة وسنين وانت في القفص حزين تغني بصوت حنين لا من نعرف غناك منين
La fameuse chanson El Meknin Ezin, ici par le groupe Labès, fondé en 2004 à Montréal, un ensemble algéro-québécois. Merci beaucoup Sadek Atoussi d'être intervenu depuis Guelma en Algérie pour nous parler de la passion algérienne pour le chardonneret. Je rappelle, professeur d'écologie à l'université du 8 mai 1945. Je renvoie vers deux documentaires de France Culture, L'élégance du chardonneret et Le chant du chardonneret par Séam Boutat, Alexandra Longuet et François Test. Merci beaucoup à nos deux invités de la première partie. Éric Baratet, je renvoie vers votre ouvrage Culture féline, les chats créent leur histoire, c'est paru aux éditions du Seuil. Florence Galmiche, votre dernier article, Bovins et volailles au paradis d'Amita, prier pour les âmes animales dans le bouddhisme sud-coréen, c'est paru dans la revue Terrain, un numéro entièrement consacré à la place des animaux dans les nouvelles formes de ritualité intitulée Animal culte. Et dans un instant, c'est la revue de presse internationale.
France Culture, la revue de presse internationale. Catherine Dutu.
Et Catherine, aujourd'hui, Israël et le Hamas palestinien acceptent la première phase du plan de paix de Donald Trump.
Le président états-unien table sur un retour des otages lundi au plus tard, y compris pour les corps des personnes enlevées et tuées depuis le 7 octobre, c'est ce qu'a précisé Donald Trump sur Fox News. Leur libération, leur restitution pourrait même avoir lieu dès samedi, affirme le quotidien israélien Yediot Aharonot, avant l'arrivée de Donald Trump en Israël, espéré dimanche par Yediot Aharonot. Soulagement des familles d'otages cette nuit, des frères, des sœurs, des épouses, des enfants se sont pris dans les bras à l'annonce de l'accord de cessez-le-feu, comme le montrent les journaux israéliens Maariv et Yediot Aharonot. Pleurs de joie, scène de liesse cette nuit en Israël, place des otages à Tel Aviv. Les familles ont remercié avec effusion Donald Trump, souligne le quotidien Maariv. Nous pouvons enfin respirer à nouveau. Nous pourrons bientôt serrer dans nos bras ce que nous craignions de ne plus jamais serrer dans nos bras. Et nous pourrons offrir à ceux que nous avons perdus des funérailles dignes. Vous avez tenu votre promesse et nos familles vous en seront éternellement reconnaissantes, ont écrit des familles d'otages. Certaines ont même pu appeler directement le président états-unien, Donald Trump, qui se qualifie de « peace president », de « président de la paix », comme le montre une photo de la Maison-Blanche, également diffusée par le journal israélien Yediot Aharonot. On peut voir Donald Trump porter pour une fois une cravate jaune, reprenant ainsi la couleur du ruban de solidarité avec les otages israéliens. C'est ce ruban jaune que l'on peut également voir sur le site de Yediot Aharonot sous la bannière « Hostage deal is on the go », l'accord sur les otages est en cours.
Mais après deux années de guerre, le Hamas est-il en mesure de retrouver tous les otages morts dont les corps sont encore détenus à Gaza ?
Des sources israéliennes en doutent et elles l'ont fait savoir à la chaîne télévisée CNN aux États-Unis. Il reste aujourd'hui 48 otages dans Gaza, dont 20 personnes présumées vivantes et en très mauvais état de santé. Tous des hommes âgés entre 20 et 47 ans. Leur nom et leurs photos d'avant les attaques terroristes du 7 octobre figurent toujours sur le site des quotidiens israéliens Yediot Aharonot, Haaretz notamment, tout comme le visage des 28 autres otages, dont les corps se trouvent toujours à Gaza, précise Haaretz. Mais le Hamas ignore comment récupérer 7 à 15 de ces otages, rapporte CNN, dont les sources se fondent sur les services de renseignement israéliens, ainsi que sur des messages du Hamas et des médiateurs. Le gouvernement Netanyahou le sait depuis des mois. Les États-Unis en sont conscients également. Des négociateurs de l'administration Biden savaient déjà, précise CNN, que certains otages étaient détenus par des factions à Gaza sur lesquelles le Hamas n'exerce pas un contrôle total. Et CNN se demande ce matin si le Hamas va exploiter cette incertitude, cette incapacité à restituer tous les otages morts pour retarder la mise en œuvre du cessez-le-feu et insister sur le fait qu'Israël doit effectuer un retrait militaire complet de Gaza avant de pouvoir restituer tous les otages à leurs familles, sachant que la libération de ces otages se fait en échange de près de 2000 détenus palestiniens, rappelle le Washington Post, Axios et l'agence de presse palestinienne. Est-ce que le Premier ministre israélien pourrait lui aussi utiliser cette incertitude comme prétexte pour torpiller tout accord ? Le quotidien de gauche israélien Haaretz se pose la question, tout comme CNN. Mais selon les deux médias, la pression exercée par Donald Trump, notamment, est telle que Benjamin Netanyahou n'utilisera pas la restitution de tous les otages tués pour faire échouer l'ensemble du plan en 20 points proposé par Donald Trump. La semaine dernière d'ailleurs, Nathan Eshel, un proche du Premier ministre israélien, a laissé entendre que les corps de certains otages ne seraient jamais restitués. C'est ce que rapporte le journal Maariv ainsi que CNN. Il y aura des Ron Arad, a déclaré Nathan Eshel en référence au pilote de l'armée de l'air israélienne porté disparu depuis sa capture lors d'une mission au Liban en 1986.
En tous les cas, cet accord pourrait être une victoire majeure pour Donald Trump, Catherine.
Celui qui rêve, vous le savez, d'obtenir le prix Nobel de la paix. Ce pourrait bien être le point d'orgue de la politique étrangère de son second mandat présidentiel, s'accordent à dire le New York Times, le Washington Post, la BBC et Al Jazeera. Mais seulement si l'accord annoncé par Donald Trump tient et que les combats cessent, tempère la BBC. La clé de son succès, selon le Washington Post, Donald Trump a adopté une approche différente de celle sous l'administration Biden, entre pression plus forte sur Benjamin Netanyahou et carte blanche aussi pour agir à Gaza, avec peu de considération pour la situation humanitaire, contrairement à l'administration démocrate, souligne le Washington Post. Aujourd'hui, près d'un enfant sur six souffre de malnutrition aiguë à Gaza à cause de la guerre entre Israël et le Hamas. Et cette situation est évitable, estime une étude de la revue scientifique The Lancet, publiée ce matin. Si vous avez la moindre question sur l'actualité internationale, je vous rappelle l'adresse pour m'écrire et pour la revue de presse interactive du samedi, fcrdpi@radiofrance.com.
Merci beaucoup Catherine Dutu. On vous retrouve demain pour la revue de presse internationale dans la matinale. Et demain dans Culture Monde, eh bien c'est l'émission Actu du vendredi. Le retour de terrain sera consacré au Yémen avec le journaliste Quentin Muller. Et dans la table ronde, eh bien nous nous demanderons qui fait vraiment la paix. Dans un instant, les Midis de Culture par Marie Laborie.